Bon, Mme Plante propose, pour soutenir les commerces de Montréal, des parcomètres gratuits durant la période de magasinage des fêtes pour la fin de semaine. Toi, tu dis que c'est une fausse bonne idée.
Oui, plusieurs raisons. La première, c'est réfléchissons à l'existence même du parcomètre. Pourquoi la Ville a commencé à poser des parcomètres un peu partout? Oui, faire de l'argent avec des taxes, mais c'est pas juste ça. Où sont les parcomètres? Ils sont sur les rues commerciales. Et le but d'avoir des parcomètres, c'est d'empêcher l'inertie des voitures et de favoriser un roulement. Donc, tu imposes un ticket modérateur à une place qui est sur une voie publique en disant « si tu viens te stationner là, c'est parce que tu as besoin d'être dans le coin pour une période limitée ». Alors, en mettant un tarif, tu mets un ticket modérateur, donc il y a du roulement des voitures. Il change de place.
Mm-hmm.
Ajoute à cela qu'il y a un ticket modérateur aussi sur l'efficacité. Parce que là, tu te dis, OK, est-ce que je vais mettre 3 heures? Non, je vais mettre 1 heure à 3 piastres de l'heure. Je vais mettre 1 heure, comme ça, je vais pouvoir partir plus tôt parce que ça va me prendre 20-30 minutes de faire ma commission au cas où. Et donc, la ville fait de l'argent avec le roulement. Là, tu penses, en tant que ville, qu'enlever les parcomètres égale plus de disponibilité de stationnement. Et là. Ce qui va arriver, je reste au centre-ville, disons, c'est pas le cas, mais j'ai un ami qui vient, hey, stationne-toi des parcomètres, toute la fin de semaine, son nom pognant, laisse ta voiture là. Imagines-tu?
Les employés, peut-être.
Les employés. Donc, écoute, je connais un restaurateur qui paye chaque jour un ticket. Chaque jour, il paye un ticket devant avec ses employés. Il dit bon, moi, je paye le ticket devant mes employés se stationnent là dans le parcomètre. Puis ça me coûtera 70$ par jour, c'est pas grave, c'est mon frais. C'est mes frais, excuse-moi, au pluriel. Donc, tu vois, le restaurateur a assumé ce coût-là. La question est la suivante. C'était quoi le but? Si le but, c'est d'attirer le monde, c'est drôle. Ou elle a raison sur une chose, c'est que le coût du parcomètre, là, ça devient une réflexion. Exemple, je vais aller prendre un café sur le plateau Mont-Royal. Mon café me coûte 4$. Mon parcomètre me coûte 9. Je vais m'en aller. Tu sais, 3 heures à mon café avec un travail, ça marche pas. Ça fonctionne pas mathématiquement. Donc, peut-être on peut faire un rabais. Mais l'autre question, c'est est-ce que tu vas vraiment, dans un cas de pandémie, ramener des clients au centre-ville à cause des parcomètres? Ça veut dire que tu penses que l'élasticité de la demande est directement corrélée avec le parcomètre dans le temps des fêtes. Tu sais, quand tu t'en vas dépenser 600-700$, là, oui, ça te dérange de mettre un petit 3$ dans le parcomètre. C'est quoi la question sous-jacente? C'est, il n'y a pas de lien de cause à effet précis, déterminé et que l'on peut prouver.
Mais regarde, là, un auditeur m'a résumé ça à sa façon, puis te partage sa philosophie.
Vas-y.
Il dit, quelle est la raison, si je prends le cas de la rue Sainte-Catherine, là, qui est un méga chantier en passant, il dit, pourquoi je viendrais, même si le parcomètre est gratuit, là, pourquoi je viendrais au centre-ville? La plupart des bannières qui ont encore pignon sur rue ou pignon devant trou, je les retrouve ailleurs, dans des centres commerciaux, puis là-bas, de toute façon, le stationnement est gratuit. Donc, tu sais, il n'y a pas comme... Bon, je comprends qu'il y a une nouvelle bannière là, qui s'installe japonaise avec, je pense, c'est 32 000 pieds carrés.
Miklo.
Oui, c'est ça. Mais ça peut amener du monde. Mais pour l'essentiel, ça n'a plus le même pouvoir, le centre-ville, là, de séduction auprès de la clientèle. Il y a d'autres rues commerciales à Montréal qui peuvent attirer. Peut-être que sur Mont-Royal, ça va marcher. Peut-être que sur Laurier, ça va marcher. Sur Fleury, je ne sais pas. Mais
Oui, les résidents sur le plateau l'hiver, Paul, as-tu déjà été sur le plateau l'hiver, t'as stationné?
Non.
C'est quelque chose. Et donc, les rues transversales, qui sont, je te dis, tu as 2 voitures, les 2 bancs de neige, j'ai plus de place pour ça dans le milieu. Donc, imagines-tu les résidents qui se font dire les fins de semaine, mi-novembre à fin décembre, vous avez le droit de vous stationner sur Mont-Royal. Puis là, la ville pourrait dire, oui, mais on va mettre un maximum de 3 heures. Ah ouais? Vous allez vraiment vérifier, mettre des tags sur les voitures pour vérifier que ça fait 3 heures qu'elles sont là ou pas? La réponse, c'est non.
Okay.
Et donc, ça ne fonctionne pas.
Question d'un auditeur là, concernant l'assurance et le prêt hypothécaire.
Oui. Les gens me disent, j'ai eu 2-3 questions similaires cette semaine. As-tu de l'assurance invalidité ou de vie sur ton prêt? Comment on choisit ça? Parce que mon institution, en prenant mon prêt, me négocie un taux, m'offre aussi de l'assurance. Et là, je dis, faites attention. Et là, je mets un bémol. Ce n'est pas un conseil individuel parce que les courtiers en assurance vont me taper dessus, puis les institutions financières. Mais disons que, première des choses, posez-vous la question, pourquoi vous assurez-vous? Si vous êtes célibataire, puis que vous assurez votre prêt, puis vous dites, ouais, mais si jamais je meurs, il faut que la maison se paye. Ben non. C'est pas si grave que ça. À moins que vous pensiez avoir quelqu'un dans votre vie dans les prochaines années qui va avoir besoin de l'assurance pour payer le restant de la maison. Votre employeur vous offre quoi? Avant d'aller prendre de l'assurance, si vous avez, par exemple, 50 000, 60 000 d'assurance invalidité au travail ou 40 000, court terme ou long terme, c'est à valider ça aussi. Est-ce que vous avez besoin d'une assurance complémentaire ou totale? C'est à valider avant. Troisième point, votre couverture baisse avec votre solde dans ce temps-là. Si vous prenez une assurance à votre institution financière, votre couverture baisse au fur et à mesure que vous remboursez votre prêt hypothécaire. Et donc, vous payez pour une couverture qui diminue. Alors que la couverture d'assurance, c'est pour remplacer du salaire. Ça devrait être une couverture qui est prise dans un besoin global à l'extérieur du prêt. Donc, c'est quoi la stratégie dominante? C'est de rencontrer un courtier en assurance et de lui exposer vos besoins, regarder votre couverture, puis dire « Regarde, j'ai besoin de tel montant d'assurance, mais pas jusqu'à votre mort nécessairement. » Parce que l'assurance invalidité, c'est le temps que vous êtes évidemment au travail, c'est pour remplacer votre salaire. Mmh. Et pour l'assurance vie, ça peut être une assurance temporaire qui est pas chère par rapport à une assurance permanente. Donc, ultimement, vous allez même vous auto-assurer. Quand vous allez avoir 65 ans, que la maison va être payée, puis que vous allez avoir des placements, votre assurance vie n'aura plus la même nécessité ou le même besoin. Donc, tout ça est à réfléchir, mais avant de dire oui à une assurance, questionnez-vous.
Oui, le pour et le contre.
Oui, il fallait me stationner sur le plateau.
Salut, bonne fin de semaine.